France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Dans 15 jours maintenant, au lendemain des réveillons, comme il se doit, commence le Dry January, le mois de janvier sobre, le mois de janvier sans alcool, cinquième édition de cette initiative que nous avons piquée aux Anglais, grands buveurs de bière. La première édition, 9 millions de personnes avaient testé leur capacité à ne pas boire d'alcool pendant un mois. En 2022, vous étiez 24 millions. Et tout ça, sans l'aide de l'État cette année encore, pas question d'accompagner cette initiative. Et une fois de plus, ce refus tout net met les addictologues en colère. Ils étaient 48 à le déplorer hier encore en écrivant à leur ministre de la Santé. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs, ce ministre tout à l'heure, il n'a pas du tout envie de s'en mêler. Nous entendrons bien sûr ce soir un représentant de la filière du vin. Et leur argument, c'est de dire mais la sobriété, elle est déjà là, cette bataille-là est gagnée, c'est pas la peine d'en faire plus. Et pourtant, ce mois de janvier, il ne dit pas arrêtez de boire. Elle ne parle pas que de vin d'ailleurs, elle dit arrêtez pour voir. Ça vous aidera à comprendre où vous en êtes avec l'alcool. Et ça, vous allez nous le dire parce que vous avez testé ou parce que vous comptez le faire. Vous nous direz ce que vous avez appris de vous, comment votre consommation peut-être a changé ensuite. Si vous avez accompagné vos proches par exemple, comment votre consommation a évolué et si vous craignez aussi de vous lancer parce que ça existe. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Claire. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. En fait, c'est pas pour un témoignage, parce que bon, je pense pas avoir de problème avec l'alcool, j'en suis même certaine. Par contre, j'ai une autre addiction, c'est la cigarette. Et donc, je comprends pas ce deux poids, deux mesures. Il me semble que l'alcool, elle fait des dégâts au niveau sanitaire, au niveau social, familial. Et l'État se mêle bien de la consommation de cigarettes. Hein. Mmh. On nous incite à arrêter de fumer, les photos sur les paquets de cigarettes, et tout ça, c'est très bien. Alors, j'ai pas bien compris, là, l'intervention du gouvernement, dire on n'est pas là pour se mêler de ça. Mmh. Alors qu'il se mêle bien de d'autres addictions, comme la cigarette, par exemple, ou les addictions aux drogues plus dures, voilà.
Et à juste titre, d'ailleurs, en effet, pour ce qui est de la cigarette, des drogues et du reste. Merci pour votre question, Claire. Ça nous fait une belle entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Bernard Basset qui est avec nous en studio.
Bonjour. Bonsoir.
Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Vous êtes président de l'association Addiction France. Il y a Marion Acquier qui est là aussi. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous êtes présidente de l'association Alcoolique Anonyme. Bernard Basset, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, en fait, parce qu'au-delà des grandes phrases sur les lobbies des uns et des autres, dont acte, mais on a du mal à comprendre pourquoi il y a un désengagement. Est-ce qu'il y a un désengagement ? Est-ce que c'est comme ça que vous le diriez d'ailleurs ?
Il n'y a surtout pas d'engagement du tout. Ouais. C'est vrai qu'on comprend mal. Votre auditrice était tout à fait pertinente. Il y a des dégâts considérables, 40 000 morts par an, il y a des addictions, il y a des troubles sociaux, hein, plus qu'avec la cigarette, c'est vrai que ça peut occasionner des violences. Donc il y a toutes les raisons objectives d'avoir une politique envers l'alcool, une politique de prévention dynamique. On ne l'a pas, on sait tous pourquoi. Il y a une pression considérable d'un secteur économique et ce secteur économique, pour l'instant... met sous le boisseau tout ce qui pourrait être positif pour la santé.
Ça va au-delà même du secteur économique, parce qu'après tout, il y a aussi un secteur économique autour du tabac, alors autour de la drogue évidemment non, mais est-ce que ça ne nous dit pas autre chose en fait quand on parle d'alcool, au-delà même de ça ?
C'est-à-dire la pression du secteur économique du tabac, elle a été très forte.
N'est plus qu'elle était.
Elle est plus qu'elle était. Le produit, la cigarette, c'est décrié. Tout le monde sait que
c'est
mauvais.
C'est pas vendeur, on est d'accord.
Le lobby de l'alcool arrive toujours à dire, mais oui, c'est quand même un produit festif, de plaisir. Donc c'est quasiment une norme d'en boire. Et ce discours qui est ajouté justement au poids économique, aux emplois. Aux exportations et mis en avant pour contrer des mesures sanitaires indispensables.
Marion Acquier, je me demandais si aux Alcooliques Anonymes, vous avez parfois des gens qui disent le problème avec l'alcool, c'est que c'est tellement facile de s'en procurer, on nous culpabilise finalement tellement peu parce que les campagnes sont rares et parce qu'effectivement, on le disait là, même en l'occurrence, au moment du janvier sobre, c'est tellement facile qu'on a du mal à trouver des garde-fous.
Défi
de janvier, c'est aussi bien. Est-ce que vous le sentez ça, Marion Acquier, ou pas du tout auprès des gens des Alcooliques Anonymes ? J'espère qu'on l'a pas perdu, Marion. Eh bien, pour l'instant, si. En fait, je me demandais, du coup, c'est à vous que je vais poser la question, Bernard Basset, vous, dans l'association Addiction France, est-ce que vous avez le sentiment, parfois, en parlant aux gens qui ont un vrai souci d'alcool, qu'ils se disent, ouais, mais c'est tellement simple, en fait, et on ne me dit tellement rien, en fait.
Oui, puis les sollicitations sont innombrables.
C'est aussi pour ça.
C'est-à-dire, chaque rencontre amicale, festive ou autre, est associée à une consommation d'alcool, depuis longtemps. On a vu aussi, on a fait une enquête, nous, la vente d'alcool aux mineurs. La vente d'alcool aux mineurs. Tous les magasins, ça va du kebab à l'hypermarché, les magasins vendent de l'alcool aux mineurs alors que c'est parfaitement interdit.
Alors, elle est intéressante cette étude parce que non seulement ils vendent de l'alcool aux mineurs, mais surtout très peu de gens finalement ne demandent la carte d'identité, etc. Ce qui est censé être quand même dans la loi. Très peu de gens le font.
Oui, les commerçants ne demandent pas la carte d'identité dans 9 cas sur 10.
Non,
Et quand ils la demandent, ils vendent quand même de l'alcool. C'était l'intérêt de notre enquête.
Ça dit quoi à votre avis? Qu'est-ce que ça dit ça? Est-ce que ça parle de banalisation? Est-ce que ça parle de bon, c'est pas si grave? Ça dit quoi en fait?
Oui, ça parle à la fois de banalisation, la présence de l'alcool dans notre vie est considérée comme normale. On ne se rend pas compte pour les adolescents le risque qu'ils prennent. Ils prennent plus de risques que les adultes. Hein. Leur cerveau n'est pas mature, il est plus fragile et l'alcool est un neurotoxique majeur. Et ça, on l'a mal intégré. D'autre part, c'est vrai que dans les réunions familiales, on considère que finalement, c'est pas si grave d'initier les jeunes à la consommation d'alcool, de leur dire, bon, tu peux goûter.
57% des Français ont proposé de l'alcool à un mineur, vous dites dans votre étude.
Oui,
57%,
oui, c'est considérable.
Ça veut dire, on fait goûter, en fait.
On fait goûter.
Il faut se méfier de ça, vraiment.
En faisant goûter, on ne fait pas que ça.
Docteur.
On banalise la consommation d'alcool dans les réunions familiales. C'est normal de consommer de l'alcool dans les. Donc, on prépare les jeunes à consommer de l'alcool dans toutes les situations festives.
Il y a quelque chose du rite aussi, tiens, maintenant tu as tel âge, tu as le droit au verre d'alcool, ça peut être un verre de champagne, ça peut être un verre d'autre chose, ça n'a aucune importance. Mais
oui, il y a une sorte de rite social. Hein.
Marion, à qui est-ce que je vous ai retrouvé?
Oui.
Ah, formidable, formidable. Vous êtes la présidente de l'association Alcoolique Anonyme. Oui. La question que je posais, avant que vous ne disparaissiez, c'était de savoir si vous entendez auprès des gens chez les Alcooliques Anonymes, justement, c'est tellement facile, c'est tellement trop facile d'en avoir accès. Et au fond, autant on peut être culpabilisé sur la cigarette, on est culpabilisé sur la drogue, mais pas vraiment sur l'alcool. Des campagnes, j'en vois peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez qui existe selon vous ou pas?
Oui, alors effectivement, l'alcool est partout. Hein, ça, surtout dans les débuts de l'abstinence, c'est ce qu'on nous rapporte. L'alcool est partout. Et puis à chaque occasion, il y a toujours cette boisson. Enfin, l'été, il y a les terrasses, le rosé. À Noël, au jour de l'an, il y a le champagne, etc. Donc l'alcool est partout. Et effectivement, pas dans tous les milieux, hein, mais globalement, on observe que si on refuse de boire de l'alcool, on peut se voir entendre une réponse du genre « Oh, ben, ça va,
c'est pas drôle.
Tu peux rigoler, tu peux te détendre, voilà, etc. » Et ça, effectivement, c'est une situation que doivent apprendre à gérer les personnes qui sont dans cette démarche d'abstinence, parce que l'interlocutrice que vous aviez, c'est très juste ce qu'elle dit, on ne met pas sur le même plan l'alcool ou le tabac, alors que c'est des problèmes de santé publique dans les deux cas. Et l'alcool est une drogue comme une autre. Alors l'idée, c'est pas tout le monde doit arrêter de boire, évidemment non. Mais effectivement, le mois de janvier, le Dry January, c'est l'occasion de s'interroger quant à sa consommation. Et si cette consommation, elle entraîne des problèmes, des solutions sont possibles. Et effectivement, la pression sociale est une des résistances parce que l'alcool, c'est un désinhibant aussi, hein, pour des personnes qui peuvent avoir un manque de confiance en elles, ça peut être aussi une aide. Et donc, pour toutes ces raisons, le fait que l'alcool soit partout et banalisé ainsi socialement, c'est une difficulté, un frein, bien entendu.
Et qu'on dise, et qu'on entende, y compris au gouvernement, dire « bon, c'est pas si grave », parce que c'est ça qu'on entend en creux, en fait, et c'est peut-être ça qui cause une difficulté. Je voudrais qu'on écoute Brigitte, c'est une note vocale et on va la découvrir ensemble.
Je suis médecin généraliste et je fais le mois sans alcool tous les ans. Et en fait, c'est compliqué de ne pas boire en France. Et pour moi, c'était une expérience très intéressante de se rendre compte à quel point c'est difficile simplement d'avoir une vie sociale joyeuse et amicale quand on refuse de boire de l'alcool. Et je tiens bon, hein, même si on me dit « mais ça peut pas te faire de mal, mais tu bois pas beaucoup ». Enfin, les buveurs ont énormément d'arguments pour nous pousser à boire et garder le cap de la sobriété par principe pour se dire oui, je peux faire la fête sans alcool, ben c'est très compliqué.
Merci pour cette note vocale à Brigitte. Je voyais opiner de la tête Bernard Basset. C'est vrai que parfois c'est compliqué de résister à cette pression.
L'alcool est présent dans toute notre vie sociale. Et quand on essaye justement de ne pas boire pendant une semaine, 15 jours, un mois, on voit à quel point c'est présent toute la journée. On le voit aussi, je veux dire, dans notre environnement. Les publicités pour l'alcool sont omniprésentes sur la voie publique, y compris quand on emmène ses enfants à l'école. Hein. On voit à l'arrêt de bus, on voit des publicités. Donc il y a une pression sociale, il y a un environnement qui est construit pour nous faire aimer l'alcool, pour le promouvoir, pour le considérer comme normal, banal, comme faisant partie de tous les moments de rencontre.
Thomas sur WhatsApp nous dit « Je suis cadre supérieur, je bois ma bière tous les soirs, je fais le dry January », nous dit-il, depuis 5 ans. Et ben, ça fait du bien parce que l'appli m'aide à visualiser les efforts et on s'en moque de moins en moins autour de moi. Il s'est quand même passé des choses depuis 5 ans. Peut-être que vous l'avez constaté vous aussi, Marion Acquier. Vous avez le sentiment qu'il se passe des choses. Est-ce que même vous voyez des gens aux Alcooliques Anonymes qui sont arrivés chez vous par le mois de janvier sobre, en fait, le premier déclencheur a pu être celui-là, ça existe ou pas ?
Alors, c'est pas la grande majorité des cas, mais en tout cas, ce mois-là permet une prise de conscience, dans le sens où, effectivement, tout le monde est censé être capable de ne pas boire pendant un mois. Mais un alcoolique, il peut pas. Déjà, 24 heures, c'est difficile. Donc, faire le constat d'échec que diminuer ou arrêter de consommer, bah, c'est plus fort que soi, déjà, ça alerte. Mmh. Après, il faut souvent de multiples prises de conscience pour arriver à demander de l'aide, à faire une démarche thérapeutique. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui peuvent créer un petit déclic dans la tête.
Mmh. Est-ce qu'on a des chiffres, Bernard Basset, des chiffres qui diraient, alors en nombre de gens qui font le mois de janvier sobre, non, c'est pas l'expression que vous préférez. Alors,
c'est le défi de janvier.
Défi de janvier.
Si vous me permettez une petite incidence, on l'appelle défi de janvier parce que justement on relève un défi et que c'est difficile. Comme toujours, on est dans un environnement un peu difficile et les alcooliers ont créé un slogan pour une sorte de contre-feu par rapport à ce défi de janvier, qu'ils appellent justement janvier sobre, pour créer la confusion. Donc, c'est vrai que nous, on s'en tient à notre appellation qui nous paraît assez bonne et bien refléter ce qu'on veut défendre.
C'est la cinquième année, juste pour prolonger avant de retourner au standard ce que disait Marion Acquier. Moi, je me souviens qu'on a fait un téléphone sonne la première fois, la première année, et ce qu'on disait, c'est qu'on ne trouvait pas très souvent dans les bars ou les endroits comme ça, de boissons sans alcool, à part des choses très basiques, ils n'ont pas besoin de nous, donc on peut dire un coca ou des choses de ce genre-là assez vite. Est-ce que ça a un peu changé, ça ?
Oui, ça a changé.
Est-ce qu'il y a désormais plus de choix si on n'a pas envie de boire d'alcool
Ça a beaucoup changé, si vous voulez. Ça a changé dans les opinions. Je pense que c'est de mieux en mieux compris qu'on refuse de l'alcool et qu'on boive de l'eau ou autre chose. Et d'autre part, l'industrie a compris qu'il y avait un créneau porteur, que des gens attendaient qu'on leur offre des boissons sans alcool, qui ne soit pas simplement de l'eau minérale. Mmh. Donc il y a des recherches industrielles pour des boissons alternatives. On a vu le développement extrêmement important des bières sans alcool récemment. Les offres de cocktails sans alcool.
Les Virgin Cocktails beaucoup, mais est-ce que ça emmène au vrai cocktail ou pas après ?
Pardon ?
Est-ce que le Virgin Mojito emmène au Mojito ? Pour dire les choses.
Alors effectivement, on peut dire qu'il peut y avoir une confusion, mais c'est mieux de boire un Virgin Mojito.
Catherine est avec nous, bonsoir Catherine. Catherine.
Allô, Catherine.
Ah si, c'est moi qui vous appelle. Bonjour, je m'appelle Fabienne, allez-y, je vous en prie.
Bonsoir, merci de prendre mon appel et merci pour votre émission. Vous êtes vraiment une super journaliste. Donc ça, je tenais à le dire, c'est vraiment un plaisir de vous écouter.
Voilà, c'est pour ça qu'on vous a pris, Catherine. Vous pouvez raccrocher maintenant. Allez-y, on vous écoute.
Alors simplement, je voudrais intervenir parce que j'aimerais juste qu'on change un tout petit peu d'angle de vue cette nouvelle mode. Ce qui me dérange un petit peu, moi, c'est qu'on demande à l'État d'intervenir sur des tas de choses. Alors évidemment, l'alcool est un gros problème sanitaire et social, on le sait. Je suis pas là du tout pour défendre la consommation d'alcool ou la consommation de cigarettes qui sont vraiment des catastrophes sociales. Simplement, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que ça me dérange un tout petit peu de toujours faire intervenir l'État. Je pense qu'on enlève de la responsabilité de chacun, de l'éducation aussi, de se dire effectivement, je sais que c'est pas bien de boire de l'alcool, je vais pas me mettre une mine tous les soirs, je vais pas fumer des cigarettes. Je suis pas certaine que le Dry January ou le
défi de janvier.
Le terme défi, déjà ça me pose un problème parce que c'est pas un défi de pas consommer de l'alcool. Faut pas le voir comme ça.
Bah pour certains, j'ai l'impression que oui en fait, Catherine.
Oui, c'est peut-être. Mais ce qui est très important, c'est effectivement, on ne délivre pas d'alcool à des jeunes mineurs. Il faut prendre les cartes d'identité, effectivement. Pourquoi pas taxer l'alcool pour éviter que les gens en achètent trop, comme on a fait augmenter le prix de la cigarette, etc. Mais j'en ai un petit peu marre, moi, de toutes ces injonctions. Ça a commencé avec les 5 fruits et légumes par jour, les 10 000 pas par jour. Plus consommer de cigarettes dans les espaces publics, enfin dans les parcs, etc., même si on est à l'extérieur. Et c'est ça qui me gêne un tout petit peu. Alors attention, hein, je fais pas du tout...
Mais on a bien compris ce que vous disiez, Catherine. Et d'abord, sur la première partie de votre... Et merci à vous pour sur la première partie de sa remarque, Bernard Basset, on n'a pas besoin de l'État tout le temps. Et le fait est que le défi de janvier existe depuis maintenant 5 ans. Première année, 9 millions de personnes. Deuxième année, j'avais le chiffre quelque part, 24 millions, je crois. Enfin, vraiment du monde, vous n'avez pas besoin en fait. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on vous donne un coup de main ?
Alors si vous voulez, on a été sur une dynamique, d'une part on a bénéficié la première année d'une publicité indirecte qui était que le gouvernement avait refusé de le soutenir. Alors il a refusé de le soutenir, tout le monde a protesté en fait.
Il y a eu des campagnes annulées après.
Voilà, les campagnes annulées et tout ça. Et donc c'est vrai qu'on a bénéficié de cette publicité indirecte. Mais il faut bien reconnaître qu'on monte ces opérations avec des bouts de ficelle, avec des bénévoles, avec quelques milliers d'euros pour investir les réseaux sociaux.
Donc ce que vous voudriez, c'est une bonne vieille campagne de pub, un peu la même qu'il y a avant le mois de tabac.
On voudrait surtout que les moyens soient pérennes. Ouais. Pour l'instant, ils sont fragiles et ils reposent sur notre dynamisme, notre engagement. Peut-être qu'un jour, on se fatiguera. Donc c'est vrai qu'avoir l'appui, non pas du gouvernement, mais de Santé publique France, qui est une agence qui est chargée de la prévention,
ça donnerait... Il faut l'aval du gouvernement pour dire oui quand on est Santé publique France. À la fin, ça revient à la même chose, en fait. Mais,
Oui, enfin, c'est une agence qui est indépendante, qui devrait être plus indépendante, en tout cas. On ne se pose pas la question pour l'INSERM. L'INSERM, on dit, c'est la recherche médicale, on n'accepterait pas que le gouvernement s'en mêle. Eh bien, Santé publique France, ça doit être la même chose.
Marion Acquier, vous vouliez intervenir ?
Oui, oui, et je voulais ajouter, au-delà du soutien, que ce soit financier, matériel ou autre, pour moi, je crois que ça serait sortir du tabou, parce que malheureusement, moi, ce que j'observe, c'est que, on parlait de banalisation, mais il y a une méconnaissance de la maladie, parce que c'est une maladie, et ça encore, même des soignants ne le savent pas, et ça encore, moi, je travaille à l'hôpital, nous, l'équipe d'Addicto, on doit aller dans des services, faire de l'information auprès des soignants. Donc, je trouve que au-delà de la question de l'impact que ça aura chez chaque personne individuellement, c'est sortir du tabou que oui, l'alcool, c'est pour la plupart des gens, c'est un plaisir, c'est festif, c'est social, etc. C'est aussi une grave maladie qui est mortelle. Et ça, c'est ça qui, je pense, qui serait important.
Bonsoir Samuel Mongermont.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On ne pouvait pas parler de ça sans que vous soyez présent, vous aussi. Il n'y a pas de raison. Vous êtes le directeur de la maison Les Grandes Serres à Châteauneuf-du-Pape. Vous êtes président de Vin et Société. Et ce que vous dites, vous, parce que je vous ai lu, c'était une tribune, vous dites, mais la sobriété existe déjà. Ça, c'est une bataille qu'on n'a plus besoin de gagner. Donc, on n'a pas besoin d'en faire plus. C'est un peu ça que vous dites, vous, du côté de la filière du vin.
Alors, tout d'abord, vous remercier de me donner aussi la parole à l'intérieur d'un débat aussi important pour notre filière et malheureusement avec un temps peut-être un peu plus court en ce qui me concerne. Donc je vais être bref et en tous les cas d'être parce que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses sont partagées par la filière, largement partagées. On parle d'addiction, on parle de dégâts, on parle évidemment de problématiques sur les repères de consommation, on parle de comparaison avec le tabac. Enfin, je pense qu'on a commencé le propos du défi de janvier avec un tableau extrêmement noir. Donc si le défi de janvier, c'est régler ces problèmes-là, je pense qu'on n'est pas du tout en phase avec le projet. Mmh. Nous sommes parfaitement en phase avec l'idée que chacun est libre de faire son choix d'abstinence, son choix de consommation. Ce qu'on répète, c'est que la modération, on la porte toute l'année. Mmh. Ce qu'on répète, c'est qu'en 60 ans, on a perdu 60% de la consommation et que sur les 20 dernières années, c'est moins 34% pour le vin. Mmh. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'on ne regarde pas l'état de la consommation française comme elle est aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas nier les problèmes, et je crois que c'est votre auditrice ou la personne qui est avec vous aussi au téléphone a parlé de maladie. Bien sûr que les addictions, c'est une maladie, ça doit être réglé par les médecins. Ouais. Nous sommes des négociants, des vignerons, nous vivons de notre activité, et nous n'avons pas, nous semble-t-il aujourd'hui, nécessité de stigmatiser un mois spécifique, une période spécifique pour identifier finalement que l'abstinence serait la voie demain de la consommation. Elle est déjà extrêmement modéré. Vous avez aujourd'hui 9 personnes sur 10 en France qui sont parfaitement à l'aise avec une consommation modérée, en phase avec le repère de consommation.
Mais justement, monsieur Montgermont, c'est pas à cela qu'on s'adresse, en fait. Et c'est là que je comprends pas bien, en fait, et que j'ai l'impression qu'il y a, une histoire de contresens, en fait. Non, mais ceux qui ont une consommation modérée conservent de toute façon une consommation modérée, et y compris même en faisant un janvier qui est un janvier sec. On parle pas du vin, on parle de l'alcool au sens large. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que depuis 5 ans, par exemple, est-ce qu'on peut dire que pendant le mois de janvier, la consommation dans la filière vin et donc le bénéfice de la filière vin s'effondre littéralement ?
Non, encore une fois, aujourd'hui, notre position, elle est simple. Elle est frappée du bon sens. On a toujours été dans des messages de repères de consommation et on les conserve et on conservera. Et je pense que ceux qui ont fait le meilleur travail de la déconsommation, c'est finalement nous. Quand j'entends les discussions autour de la publicité, je rappelle quand même qu'on a la loi la plus restrictive au monde. Mm-hmm. La loi la plus restrictive au monde dans un pays producteur de vin. Comme quoi on a déjà su faire quand même des réglementations suffisamment strictes. Donc aujourd'hui, revenir encore une fois à la stigmatisation de l'abstinence, c'est quelque chose qui ne nous va pas. Nous, on est prêts à travailler avec les autorités de santé. On l'a toujours fait. On a travaillé autour du plan de prévention que
le président de la République, vous savez, il dit où que je sois et quelles que soient les circonstances, je serai à vos côtés parce que j'aime ça. Donc on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'il soit contre vous, le président de la République.
Il aime notre art de vivre, je crois, à la française. D'ailleurs, en début de propos, vous avez dit une chose qui m'a un petit peu sensibilisé, c'est que nous l'avons piqué aux Anglais. Sauf que nous n'avons pas la consommation anglaise. On ne consomme pas de la même façon.
Mais donc, du coup, c'est ça que je ne comprends pas, monsieur. Pardonnez-moi, hein, monsieur Montgermont, mais c'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'on n'a pas la consommation, effectivement, des Anglais, comme vous dites.
Bah, en fait,
Les ventes ne baissent pas pendant le mois de janvier. Les gens y retournent derrière. Vous dites qu'ils ont une consommation plus modérée. Donc, du coup, je me dis, vous êtes les meilleurs et les mieux placés pour accompagner le défi de janvier, en fait. Ce mois-ci, vous êtes peut-être en défi, mais vous allez voir, on peut aussi avoir une vraie consommation modérée, on peut même raconter comment fonctionne le vin, enfin, il peut y avoir un accompagnement, vous pourriez être main dans la main sur cette affaire.
Alors déjà, en plus, je crois qu'il y a quelque chose qui est important sur le fait que vous pouvez comprendre que notre filière n'est pas du tout à l'aise avec ce principe, c'est que le défi de janvier répond... il est né, hein, historiquement, il répond à une période d'excès. Je suis désolé, c'est pas un attelage qui nous va. L'excès, derrière, je vais régler ma problématique d'excès par l'abstinence, ça ne nous fonctionne pas chez nous. C'est pas nos messages.
Même sur un mois, histoire de... Parce que ce que dit le message...
Vous voulez stigmatiser une période. Je suis peu comme votre auditrice aussi. On est peut-être un petit peu là, en France, quelque part, des chemins de conduite descend. En fait, tous les mois, on va avoir quelque chose. Ça va pas être drôle, la vie. En revanche, oui, l'abstinence, bien sûr, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la forme.
Mais non, justement, vous avez raison. Le sujet, c'est pas l'abstinence. Personne ne vous demande à qui que ce soit d'être abstinent. Sauf au mois de janvier. Pour tester sa consommation.
Ben oui, justement, sauf au mois de janvier. Alors, par exemple, si vous voulez traiter...
Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Je vais vous expliquer. Donc, en fait, vous avez des gens qui, vous savez, ils ont des pulsions d'acheter toujours. D'accord ? Ce sont des maladies d'addiction aussi, d'acheter toujours. On va fermer les magasins pendant un mois pour les gens qui ont des problématiques d'addiction aux achats. Vous imaginez, nous, une artisanat comme la filière vin.
Mais personne n'est jamais mort, monsieur, excusez-moi, monsieur Montgermont, mais personne n'est mort d'avoir acheté des fringues.
Oui, mais encore une fois, vous avez vu, vous détournez mon propos. Moi, ce que je dis, c'est que les addictions existent. Les problématiques, oui, le vin, c'est pas un produit neutre. Mm. Et bien sûr que je le soutiens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons quand même la fierté que 90% des Français ont compris comment on consomme notre produit. Mais continuons de nous occuper des problèmes d'addictologie, bien volontiers et bien volontiers pour y travailler.
On vous a entendu, Samuel Montgermont, et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez écouter ce que dit Véronique et vous allez voir que peut-être que sur certains points, vous n'êtes pas éloignés l'un de l'autre. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Non, moi je pensais juste que la différence de traitement par l'État entre le vin et la cigarette tient peut-être au fait que le vin, c'est une culture française, c'est un savoir français. Les vins français sont reconnus dans le monde entier. Vous offrez facilement un stage d'œnologie, vous pouvez acheter un livre sur le vin à quelqu'un qui a le vin, vous n'achèterez pas un livre sur des cigarettes, je pense que ça ne coûte même pas. Vous offrez une bonne bouteille, même des fois vous allez mettre une somme d'argent non négligeable parce que c'est considéré comme un beau cadeau. Le vin, ça fait peut-être partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO et de la France. Donc peut-être que l'État ne traite pas de la même façon parce qu'il y a un art du vin. Il n'y a pas un art de la cigarette.
Ça, c'est sûr. Certains vous diraient qu'il y a peut-être un art du cigare, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Et c'est vrai, elle a raison, Véronique Bernard Basset. Et en même temps, quand j'écoute Samuel Montgermont, je vois bien ce qui vous sépare. Mais aussi ce qui vous rassemble, en fait. Et j'ai presque envie de vous poser la même question que je lui posais à vous. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de l'embarquer, la filière, derrière vous, pour que ce mot qu'il emploie, lui, qui est de stigmatiser, ne vienne pas à l'esprit de la filière viticole?
Non, nous, notre discours ne stigmatise pas la filière viticole, ni d'ailleurs la filière brassicole ou cidricole. C'est vrai que cette opération, ça amène à s'interroger. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, je suis tout à fait d'accord, ça amène à s'interroger sur la place que l'alcool prend dans notre vie, et ça ne doit pas être une consommation obligée. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Montgermont quand même, parce que il dit, on respecte les critères de consommation dans la majorité des cas. Mais ces critères de consommation, il les présente comme un seuil en dessous duquel il n'y aurait pas de risque. Mmh. Or, en fait, pour le cancer en particulier, le risque commence dès le premier verre. Mmh. Et on est obligé de s'interroger sur le fait qu'on ne boit qu'un verre, on est en dessous des seuils de consommation, mais on a déjà augmenté ces risques.
C'est ce que
Donc, il n'y a pas de consommation sans risque, et je crois que c'est la différence avec M. Montgermont. Pour lui, en dessous des repères de consommation, eh bien, tout va bien. Ce n'est pas le cas.
Il y a le niveau de consommation, et à chaque défi de janvier, c'est une question qui est posée par nos auditeurs, c'est à quel moment on arrive à sentir qu'on dépasse cette barrière-là. Voici Thomas qui est à Marseille. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Thomas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Pour savoir, quand on a une consommation d'alcool qui est excessive ou une alcoolodépendance, à partir de quel niveau de consommation c'était plus prudent de se faire accompagner médicalement pour le dry January, ou est-ce qu'il y avait des risques particuliers?
Je vais vous
le faire.
Merci Thomas, c'est une vraie bonne question. Marion Acquier, d'abord, vous qui êtes aussi psychologue, clinicienne et psychothérapeute, à quel moment, quand on a envie de se lancer, on se dit « je pourrais pas y arriver toute seule, j'ai besoin de quelqu'un qui me tient la main ».
Ah bah, si on pense ça, il faut y aller tout de suite, hein. Parce que, en fait, ça dépend du niveau de consommation de chacun.
C'était ça la question de Thomas, en fait. En fonction de ma consommation, voilà. Est-ce que j'ai intérêt à me lancer tout seul?
Moi, je conseille quand même d'être toujours accompagné médicalement. Enfin, psychologiquement, dans le sens où un sevrage, faut quand même l'accompagner médicalement, parce que si on passe de je sais pas combien de verres par jour à rien du tout d'un coup, il peut y avoir des risques de déshydratation, de réactions anxieuses massives, enfin plein de choses. Donc moi je conseille quand même, quand on a une consommation excessive, de se faire accompagner pour des raisons juste simplement médicales. Ensuite, psychologiquement aussi, dans le sens où, faut bien comprendre que l'alcool, c'est une substance psychotrope. Donc, ça a un effet sur le comportement, sur le cerveau, donc sur toute la gestion des émotions, des pensées, etc. Et donc, si on enlève ça d'un coup, peut-être troubles anxieux, des pensées, une humeur dépressive démultipliée, des conséquences comme ça. Mm-hmm. Donc forcément que ça peut être une mauvaise expérience entre guillemets. Mais bien sûr, le sevrage d'alcool, c'est pas une partie de plaisir. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné. Après, une fois que l'alcool a été sevré et que un changement s'opère, là il y a autre chose qui peut se passer. Mais un sevrage, quand on a une consommation excessive, il faut faire attention.
La différence, Bernard Basset, on fait beaucoup de comparaisons avec la cigarette, par exemple, c'est qu'il y a plein de béquilles avec la cigarette. On peut se patcher, on peut
prendre des
cigarettes électroniques, etc. Il y a des moyens de substitution, en effet.
Voilà. Oui, alors la question est très intéressante, hein, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a, l'addiction, c'est quand on ne peut pas stopper sa consommation. On est obligé de la renouveler sans arrêt. On ne peut pas faire de pause, justement. Et ça, c'est l'addiction, c'est la maladie, on est dépendant.
Et c'est à ça que ça sert ce mois de janvier, précisément, c'est savoir si on est capable de faire une pause.
Ben voilà. Mais si on n'est pas capable de le faire, on a quand même intérêt à se faire accompagner et à consulter quelqu'un. Puis il y a des consommations qui sont à risque, à fort risque, et en particulier quand on consomme au-delà des repères de consommation, justement à moindre risque.
Mmh. On a ce mail qui me fait rire, c'est celui d'Élise, enfin sur WhatsApp, et qui dit « Bonsoir, pour ma part, j'ai fait le défi de janvier pour la première fois en septembre 2022, parce que c'est l'été que je prends des habitudes d'alcool, apéro, barbecue, etc. Donc j'ai eu besoin de voir ce que ça donnait après ça. En janvier, nous dit-elle, je vois moins l'intérêt parce que c'est juste deux soirées, après tout, et au fond, je ne bois jamais plus quotidiennement. » Et en effet, ça s'appelle le défi de janvier, mais ça marche aussi avec le défi de septembre, on est d'accord, Bernard Basset?
On est d'accord, mais on a été obligé de choisir un mois, parce que c'est un mouvement collectif.
Oui, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des non-dits, Marion Acquier? Moi, je m'interrogeais, par exemple, Bernard Basset nous parlait des jeunes tout à l'heure. Il y a un chiffre que je trouve extrêmement intéressant qui dit qu'en termes de consommation, ils sont pas très hauts, mais en termes de ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire boire très très vite et très très fort pour que ça fasse de l'effet, là, pour le coup, ils l'ont quasiment tous expérimenté. Est-ce qu'il y a cette espèce de choses très particulières en fait liées aux jeunes? Est-ce que vous les voyez, vous? Ou est-ce que les alcooliques anonymes est toujours un peu considéré comme une association pour les plus vieux, ou, pardon, j'ai mis des guillemets, pour les grands alcooliques?
Non, on a des jeunes, hein. Ouais. Surtout depuis la crise du Covid, on a des jeunes qui arrivent. Moi, j'ai rencontré une jeune abstinente qui avait 22 ans, elle était déjà abstinente depuis 2 ans. Donc vous voyez que la problématique de l'addiction à l'alcool, elle peut aller très très vite. Après, effectivement, il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est un rite de passage, quelque chose, au niveau social. Effectivement, les soirées étudiantes, etc., avec le binge drinking, etc., il y a cette impression que tout le monde doit passer par là, il faut bien que jeunesse se fasse, etc. Sauf que non, en fait. Enfin, oui, il faut bien que jeunesse se fasse, mais parmi tous ces jeunes, parmi tous ces jeunes, il y en a qui sont déjà en train de sombrer. Hein. Mmh. Il y en a déjà qui vont boire le matin avant d'aller en cours, ou qui auront une bouteille dans leur sac à dos. Enfin, vous voyez, et c'est pas juste, il faut que jeunesse se passe, c'est des soirées, c'est pas bien grave. Non, malheureusement, non. Hein. Donc, on a des jeunes qui arrivent au AA, et effectivement, c'est un mouvement qui a plutôt une connotation comme ça, pour les, comme vous dites, les grands alcooliques, etc. Mais il n'y a pas de grands alcooliques, on est alcoolique ou on l'est pas. Ouais. Et qu'on ait 20 ans ou 40 ou 60 ans, c'est tout pareil.
Ouais. C'est Maglone qui nous écrit sur WhatsApp et qui nous dit ceci. Ça fait 4 ans que je joue au Dry January, nous dit-elle, et ma consommation a évolué. Je buvais 4 verres en moyenne par semaine avant. Maintenant, sur une année, j'en suis à environ un verre par mois. Mon sommeil, ma santé, ma forme, tout cela a été amélioré. Pourquoi le ministère de la Santé ne communique-t-il pas plus sur ces avantages-là? Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans le message de Maglone, Bernard Basset. D'abord, c'est, elle dit, ça fait 4 ans que je joue au défi de janvier. Et moi, je trouve ça bien.
Exactement ce qu'on veut faire passer. C'est-à-dire, c'est ludique.
Et est-ce qu'avec le recul aujourd'hui de ces 4 ans pleins, et là bientôt une 5e année, vous voyez des gens comme Maglone qui ont bougé leur consommation? C'est-à-dire, il y a un retour à l'alcool festif dans certaines soirées ou repas. pas, etc. Mais un retour différent, est-ce que c'est une vraie conséquence, ça, ou pas ?
Oui, c'est très fréquent. C'est le principal enseignement du Dry January anglais. C'est-à-dire que les gens qui font le Dry January, qui reprennent
vous
la
aussi,
consommation
vous,
d'alcool...
Vous avez pris l'anglicisme.
Ouais, ils boivent moins, ouais. En moyenne. Et alors, le défi de janvier a les mêmes effets, en France.
Moins, mais mieux, ou pas ? Parce que je voudrais rassurer Samuel Mongermont, qui peut-être est en train
moins,
de nous écouter. Boire moins, c'est peut-être boire mieux aussi, en termes
boire
de,
moins, c'est toujours mieux.
De quantité, mais aussi peut-être aller savoir aussi de qualité. Je bois toujours avec modération, nous dit Ludovic, mais peut-être vais-je réduire ma consommation. Certainement pas, en tout cas, dit-il, faire un mois de janvier sec. Comme je n'aime pas faire comme tout le monde, nous dit Simon. Moi, je trouve que 31 jours, c'est beaucoup. Je le ferai au mois de février. Merci, Simon. On a bien compris. On a aussi Pierre-Luc qui nous dit « Je ne comprends pas que tous les ans, une telle polémique entre pro et anti se passe au niveau du défi de janvier. Ça montre bien que la France a un problème avec la culture autour de la consommation d'alcool social. Sinon, ça ne susciterait pas autant de controverses. » J'imagine là-dessus, Marion Hacquier, que vous êtes d'accord avec la remarque de Pierre-Luc. Si c'est autant problématique, c'est qu'on a un problème, donc.
Oui. Complètement. Je suis complètement d'accord, effectivement. Ça devrait même pas être un sujet. On peut boire, on peut pas boire, comme on peut manger du fromage ou pas. Et le fromage aussi, c'est culturel en France. Quoique peut-être certains sont forcés à manger du fromage. Mais vous voyez, ça devrait pas être un sujet, en fait.
Eh ben, ça devrait pas être un sujet. Ça va peut-être une expérience et un jeu pour certains d'entre vous. C'est comme ça qu'on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, merci à tous pour vos nombreux appels.